force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves, méprisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous. Nos entraves, debout, debout, levons nos femmes esclaves et jouissons sans entrave, debout, debout.
Bonjour. Bienvenue à l'émission du collectif Debout, collectif féministe, nancéen et mixte. Alors on diffuse cette émission tous les deuxièmes vendredis du mois, de 15 à 16 heures, et les troisièmes jeudis, c'est rediffusé à 20 heures. Donc je me présente Laurent,
Sarah,
Maya,
Michel.
Et aujourd'hui, nous allons parler en deux parties du plaisir féminin, dans une première partie, et des violences faites aux femmes.
Donc, on s'est dit qu'on allait parler du plaisir féminin parce qu'en fait, le 9 octobre, on a organisé une projection d'un documentaire qui s'appelle « Clitoris, chair inconnue ». Et ça a été assez un succès. Il y avait 50 personnes présentes. Il y a eu des échanges intéressants et c'était pour nous l'occasion de travailler sur ce sujet et puis finalement de faire une émission de radio en partie sur ce sujet. Donc, pour introduire ce sujet, voici « Les nuits d'une demoiselle » de Colette Renard.
Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir, dans mon petit lit, quand l'étoile quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
Alors, pourquoi parler de plaisir féminin dans une émission féministe ?
Alors, chacune et chacun aura remarqué que le mot clitoris est très peu utilisé dans notre vocabulaire. C'est déjà un signe que ce clitoris est un peu méconnu de tous les habitants de la France et d'ailleurs, bien sûr, parce qu'il est attaché à cette notion de clitoris quelque chose de tabou. C'est un organe qui est essentiellement axé sur le plaisir, l'expression des plaisirs sexuels des femmes. Alors évidemment, étant donné la condition des femmes à travers le monde, on imagine que leur plaisir est comme elle, un petit peu tabou et ignoré et oublié. Alors c'est vrai que comment accepter que ce mot passe dans le vocabulaire habituel ? Eh bien tout simplement en se disant que clitoris, c'est un mot très joli, et que c'est vraiment l'expression d'un plaisir que les femmes éprouvent, en tout cas je leur souhaite, assez régulièrement. Alors bon, il faut savoir que le clitoris n'est pas du tout nécessaire à la reproduction, qu'il est source donc d'émancipation par rapport à ce plaisir que les femmes éprouvent. Il a été réprimé longtemps et même considéré comme responsable de maladies. Il faut savoir que la paroi vaginale est très peu sensible, mais qu'elle stimule les bras profonds du clitoris. Parce que le clitoris n'est pas que la partie visible. Il y a un iceberg dessous avec des grandes ramifications, et que le plaisir des femmes passe par toutes ces innervations qui sont assez importantes et beaucoup plus nombreuses que chez les hommes. Donc le clitoris est vraiment très sensible, et tout le clitoris. Donc il ne faut pas hésiter à se laisser aller et à se dire qu'être femme, après tout, c'est éprouver beaucoup de plaisir.
Et donc, quelle est la place de la sexualité des femmes dans notre société ? C'est une question importante. Alors, pendant des siècles, elles ont été réduites au rôle de reproductrices ou d'instruments de plaisir au service des hommes. Qu'en est-il maintenant ? Nous souhaitons mettre fin à cette tradition et nous voulons des femmes maîtresses de leur corps et libres de leur sexualité, au pluriel. Nous voulons l'égalité, y compris sexuelle, un esprit libre dans un corps libre.
Alors, on parle de plaisir, mais il y a peut-être quand même des femmes qui n'en éprouvent pas de plaisir. Est-ce qu'on peut parler de femmes frigides, des fois ?
Alors, on va prendre un sondage internet qui a été réalisé en 2005 de manière anonyme sur 27 500 femmes. 30% des femmes interrogées ont un orgasme à chaque fois qu'elles font l'amour. Et seuls 5% lors du premier rapport sexuel. 13% des femmes disent n'avoir jamais d'orgasme. Alors, un tiers des femmes ne ressentent pas ce qu'on appelle un orgasme vaginal. Et un tiers n'ont d'orgasme que par des caresses clitoridiennes associées. Donc, on peut affirmer vraiment que la pénétration n'est pas un moyen efficace pour exciter suffisamment les femmes. Et on peut préciser aussi que seuls 10% des femmes pensent que l'orgasme vaginal est le plus grand plaisir sexuel qu'elles peuvent éprouver. L'orgasme n'est pas la seule forme de plaisir, et le vagin n'est pas le seul organe sexuel. Bon, bref, ceux qui disent que les femmes sont frigides sont de mauvaise langue.
Ok, donc voilà, ça c'est... La frigidité, forcément, si on parle de sensibilité du clitoris et qu'on pense que tout le plaisir va venir du vagin, ça fonctionne pas, quoi. Donc, à propos de plaisir et d'orgasme, Michel, est-ce que la masturbation, ça rend sourde ? Michel ?
Sarah ?
Oui, la masturbation, alors. Tu peux nous en dire plus sur la masturbation ?
Oui, tu m'interroges sur la masturbation. Je n'avais pas bien compris. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai des difficultés auditives. Bon, voilà. Alors, la masturbation, je crois que ça ne rend pas sourd. Bien au contraire, ça épanouit et ça donne l'amour de la vie. Parce que le plaisir, c'est toujours quelque chose qui est épanouissant. Donc, si je peux me permettre, prenons notre sexualité en main.
Et au chapitre des idées reçues, on en a d'autres, des comme ça.
Bon, eh bien, c'est sûr que ça a été beaucoup réprimé dans le passé. Les enfants étaient victimes et culpabilisés. Au siècle passé, on leur attachait les mains dans le dos pour qu'ils ne se touchent pas. C'était toujours une affaire d'État. On se disait, ce sont de petits vicieux, faut surtout pas ça. C'était l'horreur. Alors, Dieu merci, bon, je ne sais pas ce que Dieu a à voir là-dedans, mais c'est l'expression, nous pouvons quand même se dire qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir et c'est un apprentissage qui doit se faire très simplement, très sainement et qui n'a pas lieu à se sentir coupable, bien au contraire.
Alors, en termes d'idées reçues, il n'y a pas que celle-là. Hein. La masturbation donc, ne rend pas sourd et permet au contraire de mieux se connaître. Laurent, tu avais des exemples d'autres idées reçues ?
Allez, bref de comptoir. Les hommes ont des besoins sexuels, contrairement aux femmes. Besoins irrépressibles en plus. Une autre, les femmes sont soit frigides ou nymphomanes.
Ouais, alors moi je veux bien insister là-dessus. Donc les femmes sont soit des salopes, soit des saintes. Et ça c'est vraiment un moyen de les condamner et de les empêcher de s'épanouir naturellement, normalement. Donc les femmes peuvent éprouver du plaisir sans être des salopes.
Allez, une petite dernière, les femmes n'ont pas d'organes sexuels extérieurs. Vous en pensez quoi de tout ça, vous ?
C'est faux !
C'est clair, surtout qu'on vient de parler rapidement du clitoris, qui est quand même extérieur. Hein. À propos justement de plaisir, il y a une zone qu'on appelle et dont on entend parler, c'est le point G. Alors ça, est-ce que ça existe, le point G ? C'est où ?
Alors le point G serait un point très précis localisé sur la paroi du vagin, à côté de l'urètre. Donc serait, puisque ça reste très hypothétique pour le corps médical. Ce qui est sûr, c'est que toutes les morphologies existent et il n'y a pas une zone commune à toutes les femmes. Par contre, ces dernières années, hein, c'est très récent, on avance un petit peu dans la connaissance des mécanismes du plaisir. Et y a deux personnes qui ont pu remarquer une zone très riche en nerfs. Et qui serait au niveau du clitoris, puisque donc le clitoris est le seul organe du plaisir. Il y a très très peu de nerfs sur la paroi du vagin. Sinon, quand on accoucherait, ça ferait très 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 mal. Ça fait déjà assez mal comme ça. Donc, c'est en 2010 que la gynécologue Odile Buisson et le chirurgien Pierre Foldest, qui connaît très bien la question du clitoris, puisqu'il travaille sur les reconstructions après excision. Donc eux, ils ont réalisé des échographies complètes en 3D d'un coït, donc avec des couples hétérosexuels volontaires. Et ils ont pu repérer une zone du corps du clitoris qui se moule sur la partie postérieure du vagin et du pénis lors de la pénétration. Donc, il y aurait plus un mécanisme entre différents organes et ce serait une zone G qui serait donc liée forcément au clitoris, organe du plaisir.
Oui, la zone C quasiment, quoi. Donc, on n'arrête pas de parler là du clitoris. On a envie de savoir ce que c'est le clitoris, où c'est le clitoris, à quoi ça ressemble le clitoris.
Il est temps de prouver qu'on existe, de parler de ce qu'on a entre les cuisses. Tout, vous saurez tout sur le clito, le petit baveux, le gros morveux, le boursouflet, le vieux ridé, le clito à répétition, celui qui n'aime pas les garçons. Tout, vous saurez tout sur le clito.
Alors vous avez reconnu une parodie de Tout sur le zizi de Pierre Perret. Donc là c'est Tout sur le clito, une chanson de Choum. On vous a passé un petit extrait. Donc le clitoris, eh bien ça reste le grand absent des supports éducatifs, médicaux et même des supports érotiques. Alors c'est un organe qui est nié ou minoré, souvent relégué au préliminaire. Alors que, il est très important. Alors, souvent on ne le sait pas, le clitoris mesure 10 cm. Eh oui, il n'y a que ne dépasse que la partie émergée de l'iceberg, le gland du clitoris. Ça va être difficile de vous faire une explication. Je vous invite à aller voir les schémas, les photos, les représentations sur notre site web www.collectif-debout.org pour voir à quoi ressemble vraiment le clitoris avec le gland, les piliers et les bulbes du vestibule.
Alors, pour en savoir plus sur le clitoris, Laurent ?
On va rentrer un petit peu plus dans les détails, pas vous faire un schéma, mais voilà, ce qui nous a intéressé en fait déjà, c'est de montrer que en fait à la base entre les organes sexuels des hommes et des femmes, eh ben il y a une sacrée similitude à la base même. C'est chez le fœtus, bah, c'est la même chose, c'est le même organe qui va se différencier de façon différente en fait, et qui garde des caractéristiques qui sont très proches. La première, bon, érectile. Les deux organes sont érectiles, chez les hommes on le voit clairement, mais chez la femme aussi, le clitoris est érectile de la même façon. C'est une zone évidemment érogène chez l'homme et chez la femme. Et puis après, bon, passons les détails, on retrouve le corps caverneux, corps spongieux, le gland chez la femme comme chez l'homme, qui sont eux recouverts, les deux recouverts d'un prépuce. Au chapitre des différences, les femmes sont un petit peu plus avantagées. Le clitoris, en fait, il rassemble une quantité de terminaisons nerveuses deux fois plus quasiment importante que chez l'homme au niveau du gland. 8000 chez la femme et 4 à 6000 chez l'homme. Et de la même façon, chez l'homme et la femme, après le rapport, il reste gonflé. On a parlé rapidement de partie immergée de l'iceberg chez l'homme, c'est clair, 8 à 10 cm. En moyenne, et ben chez la femme, c'est la même chose. Le clitoris, à l'intérieur, représente 8 à 17 cm de long. Voilà.
Et c'est le seul organe humain qui est fait exclusivement pour le plaisir. Aussi.
Merci, Maya.
Voilà, donc oui, on a un organe juste pour le plaisir. Alors du coup, on se dit, bon, il n'y en a pas beaucoup de visibles, mais il est visible. Depuis quand on en sait autant sur le clitoris? Qui s'y est intéressé?
Alors ça a commencé en moins 300 avant Jésus-Christ, et Hippocrate a étudié le plaisir féminin, et donc notamment le clitoris. Il a découvert la cyprine, c'est le nom des sécrétions sexuelles féminines, et il pensait que le plaisir féminin augmentait la fertilité. Donc, grande période de prospérité pour le clitoris suite à ça. Au Moyen-Âge, le plaisir féminin était bien connu. On conseillait, par exemple, des massages circulaires du clitoris au moyen d'huile parfumée. Et puis, en 1559, le clitoris a été découvert par Colombo. Donc, Colombo, un médecin italien, qui a disséqué pour étudier la vulve, et il a découvert cet organe qu'on connaît très peu puisqu'il est interne, et il a pu vraiment l'identifier, et il affirmait que le clitoris était le siège du plaisir féminin, et il faisait une analogie entre l'érection du clitoris et celle du pénis. Donc ces savoirs n'ont pas été démentis depuis. Bien joué, inspecteur Colombo.
Bon, mais dans l'histoire, il y a eu d'autres moments plus difficiles pour le plaisir des femmes. On voulait parler, entre autres, de certaines théories, entre autres de Freud, sur la sexualité féminine.
Oui, Freud qui a déclaré donc que la sexualité clitoridienne était infantile et immature, et qui incitait les femmes à ne jouir que par la pénétration vaginale. Ces théories ont eu des méfaits et parfois inconnus. Et alors on peut prendre l'exemple de Marie Bonaparte, qui était une freudienne passionnée. Et en 1946, elle se fait déplacer chirurgicalement le clitoris, afin qu'il soit plus facilement excité lors du coït. Bon, elle n'a jamais été pleinement satisfaite de cette transformation. Et bon. C'est une manière de voir assez étonnante. Donc, elle explique la frigidité des femmes par une distance trop grande entre le clitoris et le vagin. Bon. Une explication peut-être donc à ces théories freudiennes. C'est donc Marie Bonaparte, toujours plus tard, qui dit « Les hommes se sentent menacés par ce qui aurait une apparence phallique chez la femme. » Et c'est pourquoi ils insistent pour que le clitoris soit enlevé.
Alors, j'émettrai là une hypothèse un peu audacieuse sur le père de la psychanalyse, Peut-être a-t-il fait une forte découverte avec la sexualité infantile, parce qu'autrefois, on pensait que les enfants n'en avaient pas. Mais là, franchement, sur les femmes, aurait-il eu peur des femmes ?
Oui, puis c'était un petit peu dans la mouvance de l'époque, hein, sur la sexualité des femmes. Justement, y a des manuels d'anatomie, on parle du clitoris. Est-ce qu'on voit le clitoris dans les manuels d'anatomie, en médecine par exemple ? Est-ce qu'ils apprennent où est le clitoris, comment ça fonctionne, etc. quoi ?
Eh bien, en 1960, on fait disparaître cet organe des traités d'anatomie et donc des mentalités aussi. C'est suite à la découverte aussi des mécanismes de reproduction, donc qui sont liés au cycle menstruel et qui sont indépendants de l'activité sexuelle. Donc, on ne voit plus d'utilité à cet organe et même au contraire, on veut le taire. Et donc, on le fait disparaître des traités d'anatomie. Ensuite, en 1968, les femmes se réapproprient leur corps. En 1975, donc, est publié le rapport Haidt, qui est une grande enquête sur le plaisir féminin, où le clitoris, forcément, a une bonne part. Et ce n'est qu'en 1998 que le clitoris reprend sa place dans les traités d'anatomie, grâce à Hélène O'Connell, une urologue australienne. Elle a assisté un jour à une opération de la prostate et elle a remarqué que les chirurgiens faisaient vraiment bien attention à ne pas sectionner les nerfs sexuels pour ne pas gêner ces hommes dans leurs ébats futurs. Et donc, après ça, elle a regardé dans son livre d'anatomie pour découvrir le système nerveux de l'organe sexuel féminin. Et il n'y avait rien, aucune information là-dessus. Et donc, elle s'est lancée dans ce grand travail de retracer toute l'anatomie du clitoris avec des moyens modernes, donc en 1998. Et elle a pu confirmer ce qui avait été découvert auparavant et puis qui avait été oublié.
Waouh, ça fait à peine 15 ans, donc on se dit... du coup, est-ce qu'il y a eu des conséquences de la réapparition du clitoris dans les manuels d'anatomie ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on montre des schémas aux jeunes en collège et lycée, hein, ils ont des cours quand même d'éducation sexuelle, on leur explique un peu les fonctionnements et ils ont des schémas. Est-ce qu'aujourd'hui, le clitoris est pris en compte dans l'éducation sexuelle ?
Alors, à ma connaissance, non. Contrairement au siècle passé, c'est vrai que maintenant, on en parle. Mais le clitoris est un petit peu évacué des consciences, on va dire. On ne parle pas d'orgasme féminin, ni aux filles, ni aux garçons, semblerait. Hein. Et que le plaisir lié à l'acte sexuel est encore très peu présent dans l'éducation sexuelle.
Et pour ajouter à ça, en 2010, il y a une enquête qui a été effectuée auprès d'adolescents de 13-14 ans. Une enquête qui montrait que 50% des jeunes connaissaient l'existence du clito, le mot, c'est bien. Seulement 16% connaissaient sa fonction érogène. 50% et 16% seulement. De la même façon, dans la rue, on a croisé des jeunes qui faisaient des études de médecine et on avait le schéma du clitoris, de tout l'ensemble, le schéma interne du clitoris. Et non, en études de médecine, non, ils voyaient pas. Peut-être en seconde année, ils verraient.
Peut-être en seconde année. Ok. Alors, on parle du clitoris. On parlait de ce qui est réjouissant dans le clitoris, c'est-à-dire le plaisir qu'il peut procurer aux femmes, qu'elles soient seules ou accompagnées. Et malheureusement, il y a des situations où il n'est pas source de plaisir, où les femmes sont atteintes dans leur corps et dans leur sexualité. Donc, on a choisi de parler... un petit peu de ce qu'on appelle l'excision.
Alors l'excision, effectivement, c'est quand même une coutume qui existe dans de nombreux pays. Alors là, je vais vous faire un petit catalogue des horreurs. Bon, on appelle excision en général le terme générique pour mutilation sexuelle. Alors les mutilations sexuelles, actuellement, il y en a 100 à 140 millions dans le monde et sous différentes formes. Soit c'est l'ablation totale de l'extrémité du clitoris, on appelle ça habituellement la clitoridectomie, soit l'ablation partielle, soit la cautérisation du gland clitoridien, soit l'ablation des petites et ou des grandes lèvres, soit la suture des petites et ou grandes lèvres, en ne laissant qu'un peu un petit trou pour l'urine et les flux menstruels. Il y a aussi le grattage de l'orifice vaginal, l'introduction de substances corrosives, et je vais vous en passer pour ne pas trop vous effrayer, mais vous aurez compris que l'excision, les mutilations sexuelles sont directement liées à la représentation que l'on se fait des femmes à travers le monde, et que pour la femme, il ne doit exister aucun plaisir sexuel, aucun désir. Alors pourquoi ? Vous poserez peut-être la question. Alors, est-ce du triomphalisme masculin ? Est-ce une revanche de certaines femmes qui ne supportent pas un certain nombre de comportements ? Alors certains ont pensé que c'était pour préserver la virginité. Bon, on ne comprend pas exactement pourquoi, mais c'est comme ça. Pour améliorer le plaisir masculin, là aussi ça semblerait un fantasme. Parce qu'un homme qui partage du plaisir avec les femmes, quand on les interroge, ils sont en général assez contents de pouvoir partager un plaisir avec la femme qui leur plaît. Pour se protéger des peurs, voir notre Sigmund Freud international. Bon, l'hypothèse reste, hein. Personne n'a réussi à me répondre à cette question. Et alors, j'avais retenu une phrase. Le clitoris est souvent considéré comme une imperfection de la création divine. Un résidu masculin devant être ôté pour que la femme soit finie. Ce petit catalogue des horreurs, je le laisse à votre réflexion.
Et on peut préciser aussi que l'excision ou la clitoridectomie a été pratiquée du début du 19e au début du 20e en Europe, et notamment en France et aux États-Unis, par des médecins. Donc, excision à vocation thérapeutique pour soigner des jeunes filles ou des femmes souffrant d'hystérie ou d'autres maladies, ou à vocation punitive pour empêcher la masturbation chez des jeunes filles. Et donc c'est qu'au début du 19e siècle qu'elle a été arrêtée. Souvent on compare l'excision à une circoncision. Alors la circoncision est aussi une mutilation génitale, donc il y a un intérêt médical parfois. Mais en tout cas, c'est vraiment faux de comparer excision et circoncision, puisque le clitoris, comme on l'a vu, est le seul organe exclusivement réservé au plaisir. Et donc c'est vraiment pour supprimer le plaisir qu'on supprime donc la partie extérieure du clitoris. L'équivalent finalement masculin, ce serait de couper le gland du pénis. Donc on le voit, c'est vraiment une mutilation très forte qui est faite aux femmes. Et donc on dit que c'est pour corriger une imperfection Sarah, tu voulais dire quelque chose ?
Non, c'est bon, merci.
Oui, alors en fait, il n'y a pas tellement de différence entre les organes féminins, les organes masculins, donc comme on l'a vu précédemment. Et il y a notamment le cas des intersexes ou hermaphrodites, c'est un autre mot. Donc ça concerne, je ne sais plus combien, une personne sur 2000, donc qui présente des organes génitaux qui font qu'on ne peut pas dire si ce sont des hommes ou si ce sont des femmes. Donc tout n'est pas binaire. Et dans beaucoup de cas, ces personnes présentent un clitoris hypertrophié, donc un très gros clitoris qui mesure plus de 2 cm d'après les critères, les normes actuelles. Et donc cette question est un tabou, et souvent elle aboutit encore aujourd'hui sur des opérations. Donc des médecins qui conseillent l'ablation de ce clitoris hypertrophié, donc sur des enfants, sans leur consentement. Et bien sûr, cette opération aboutit à des douleurs et une absence de plaisir pour le reste de leur vie. Et donc, il y a des associations qui se battent pour les droits de l'homme et les droits des femmes contre les mutilations.
Sachant que moi, je me souviens que dans le documentaire Clitoris, chair inconnue, il y a le témoignage d'une femme à qui on avait enlevé comme ça une partie du clitoris quand elle était bébé et qui exprimait vraiment une réelle souffrance lors de relations sexuelles. Voilà, c'était un témoignage qui illustrait assez bien les conséquences de ce genre d'opération, qu'elles soient pour des raisons idéologiques ou soi-disant médicales, quoi. Et en fait, oui, ce que je voulais ajouter tout à l'heure, c'est que c'est très différent d'enlever la majeure partie d'un organe très innervé comme le clitoris et d'enlever un petit bout de peau comme le prépuce, hein, pour la comparaison circoncision et excision. Voilà. Donc, comme vous l'avez remarqué, on est venu maintenant sur un sujet plus difficile, sur les violences, thème qu'on souhaitait aborder en ce mois de novembre, dans lequel il y a la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, hein, le 25 novembre. Donc, on voulait parler des violences faites aux femmes et on s'est dit, mais comment en parler ? C'est un sujet qui est difficile et puis qui aurait pris sûrement plus qu'une émission. Donc, on a choisi de vous lire un texte qui rappelle ce que sont les violences faites aux femmes. Alors, ce texte, il a été écrit en 2011 par un groupe d'organisations féministes, d'associations, d'individus, pour une journée non institutionnelle contre les violences faites aux femmes. C'était le 5 novembre 2011. Et cette journée, elle faisait suite à ce qu'on a appelé l'affaire DSK. Donc, il y avait tout ça derrière au moment où ce texte a été écrit. Donc, je vais vous le lire. Les violences, toutes les femmes connaissent. Elles peuvent aller crescendo, de l'insulte au meurtre, en passant par le viol, du sexisme ordinaire au crime. C'est la main aux fesses dans le métro et les sifflets méprisants dans la rue. C'est la fille obligée de s'habiller en jogging pour avoir la paix. C'est la femme menacée d'un mariage forcé. C'est la femme qui rentre à 2h du matin et qui regarde sans cesse derrière elle pour voir si personne ne la suit. Ce sont les coups, injures, insultes, menaces, humiliations, viol par le conjoint. C'est la lesbienne qui est violée pour lui apprendre ce que c'est un homme invrai. C'est la copine, au travail, harcelée constamment par son chef qui veut la faire passer à la casserole. C'est la voisine qu'on entend crier et pour laquelle on hésite encore à appeler la police. C'est la femme qui n'a jamais pu dire que son père l'a violée dans sa jeunesse et que cela a fichu sa vie en l'air. C'est la femme immigrée qui ne peut rien dire contre les violences de son mari quand son titre de séjour dépend de lui. C'est la femme violée dans un conflit armé qui réclame l'asile en France. C'est la mère de 3 enfants qui vit seule et est contrainte de se prostituer pour boucler les fins de mois. C'est la fille violée par plusieurs garçons, que ce soit dans une cave, un salon ou lors d'un bizutage. C'est la femme qui meurt sous les coups d'un conjoint ou d'un ex-conjoint. Nous, féministes individuels, associations féministes, syndicats et partis politiques, tenons à réaffirmer que la lutte contre les violences faites aux femmes est une lutte première pour atteindre l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et que nous continuerons à la mener envers et contre tout. Nous réaffirmons que les violences sexuelles ne sont pas du domaine du privé, du domaine de la drague et de la séduction. Elles sont du domaine du public, car elles tombent sous le coup de la loi.
Tout à l'heure, je roulais sur mon scooter dans Paris, d'une voiture au feu rouge, un mec me dit:
eh hey madame, il est quelle heure?
Je lui réponds midi, il me dit:
madame, qu'est-ce que t'es bonne, tu veux pas me faire une gâterie? Ses potes rigolent sur le moment, j'ai pas compris. Je réponds, mon grand, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça à ta maman. Le mec me regarde avec une tête de chien de garde. Il fait,
ouais, c'est pour pas ma mère ou je te défonce.
Je lui réponds, tu calmes, Alphonse. Je te connais pas, tu m'agresses. C'est quoi ce manque de délicatesse? On t'a pas dit traiter les femmes comme des princesses? Il me dit,
ouais, mais toi, je te baise.
Je lui dis, bah non, justement, c'est bien ça le malaise. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con et gare au con, ma fille, gare au con. Gare au con, gare au con. Qui perdent leur cédille. Garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con et gare au con, ma fille, gare au con. Au feu suivant, j'entends,
hé, hey, grosse cochonne, quand tu veux, je te prends.
C'est encore Alphonse avec sa tête de gland. Je lui dis, là, tu t'enfonces, c'est indécent. J'y crois pas, mec, redescends de ta planète. Tu te prends pour Tony Montana, t'as même pas le poil sur la quéquette. Il me dit,
vas-y, sois pas vulgaire, tu vas voir où je veux te la mettre.
Tu dis, c'est moi qui suis vulgaire. Non, mais là, c'est la fête, je rêve. Pour qui tu te prends maintenant, tu t'arrêtes. Je descends, il descend, je dis, c'est le bordel dans ta tête. Qu'est-ce que tu comptes faire? Là, t'es en galère. Je veux des excuses, j'attends et je lâcherai pas l'affaire. Il me dit,
non, toi, tu t'excuses, espèce de vieille sorcière.
C'est la meilleure, je t'ai donné l'heure, j'aurais mieux fait de me taire. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con et gare au con, ma fille, gare au con. Gare au con, gare au con. Qui perdent leur cédille. Garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con et gare au con, ma fille, gare au con. Comment parlent certains garçons? Quelle honte, il mériterait une bonne leçon. Tu veux jouer, on va jouer, je lui dis, baisse ton caleçon. Tu parles beaucoup, ça manque d'action. Tu m'as demandé une fellation. Tout à coup, Alphonse a une révélation. Il renonce et me dit,
ouais, vas-y, c'est bon, lâche-moi, pardon.
Je lui dis, c'est bien, là t'as l'air moins con. C'est pas normal d'avoir besoin de parler aux femmes de cette façon. Y'a un sérieux problème d'éducation. Pourtant, je suis sûre que t'as un bon fond. Il me dit,
t'as raison, je me sens tout bidon. C'est mes potes qui me poussent, j'ai la pression.
Je lui dis, c'est bon, pleure pas, il manquait plus que ça. Alphonse qui fond en larmes dans mes bras. Je lui dis, toi t'as besoin d'amour, ça se voit. Allez, viens là, fais un bisou à tata. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con et gare au con, ma fille, gare au con.
On vient d'écouter Garcon de Coxy. Peut-être un problème d'éducation, oui, comme le dit à un moment dans la chanson. Je voulais juste ajouter un petit mot, par contre, cette connerie, elle n'est pas liée aux banlieues, hein. Elle n'est pas liée non plus à un âge. Comme il dit Brassens, le temps ne fait rien à l'affaire.
Ok, alors... sur les violences faites aux femmes, on ne peut pas tout aborder aujourd'hui parce que malheureusement, il y a beaucoup de types de violences faites aux femmes qu'on citait dans le texte lu tout à l'heure. On a choisi d'approfondir cette thématique sur la thématique du viol. Donc, en question-réponse, un petit peu, en partant des lieux communs qu'on entend sur le viol quand il y a des affaires... Qui sont abordés dans les médias. Donc la première question, c'est est-ce que finalement on a l'impression que les personnes qui sont victimes de viol, ça va être des femmes dans des contextes vraiment particuliers, qui se promènent toutes seules le soir en mini-jupe et hop, elles se font agresser, quoi.
Et c'est très loin de la réalité, puisque la grande majorité des viols, 74%, sont commis par des proches de la victime, donc des personnes connues de la victime. Et 67% des viols ont lieu chez elle ou chez l'agresseur.
Donc loin des idées reçues. Une autre idée reçue, c'est que y a une femme belle, et puis les hommes, on l'a évoqué tout à l'heure, il paraîtrait qu'ils peuvent pas se retenir, ils ont des besoins sexuels. Est-ce que vraiment c'est ça, le viol ?
Alors, le viol, c'est un rapport de domination. C'est donc une domination sociale et non génétique. Le sexisme ne vaut pas mieux que le racisme, c'en est même un. Donc on a entendu beaucoup de choses. Par exemple, lors de l'affaire DSK, on a entendu non mais il a pas pu la violer puisqu'elle est moche. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment une prise de pouvoir. On vit dans un monde où on traite des êtres humains comme des objets et comme des objets sexuels. Dans un monde où on respecte une femme moins qu'un homme. Et les violences et le viol, notamment, c'est un instrument de contrôle social des femmes. Et les violences montrent jusqu'où les hommes peuvent aller pour maintenir le rapport de force en leur faveur. Et finalement, toutes les attitudes du rapport hiérarchique des hommes sur les femmes, toutes ces petites attitudes quotidiennes et considérées comme normales, eh bien, elles participent au maintien du pouvoir et créent un contexte de domination masculine qui est le terreau favorable au viol.
Ah, donc plutôt une façon de prendre le pouvoir sur les femmes, et je tiens à rajouter, non, les hommes n'ont pas de besoins sexuels particuliers qui les poussent à violer les femmes. Voilà, donc un lieu commun, c'est quand même, il y a des femmes qui le cherchent, elles s'habillent osées, elles dansent avec les garçons dans les boîtes. Ce côté un peu, elle a provoqué le gars, elle l'a bien cherché, quoi.
On est vraiment dans une inversion de culpabilité et aussi dans une mise en doute systématique de la parole d'une femme qui voudrait parler de ce qui lui est arrivé. Oui, on est aussi dans cet état d'esprit où quand une femme dit non, ça ne veut pas forcément dire non, ça veut dire oui, mais, etc. Alors non, quand une femme dit non, ça veut dire non. Et céder n'est pas consentir. Et voilà, il y a aussi très peu de faux témoignages dans des cas de viol par rapport à d'autres affaires. Et la question qu'on pose, nous, le collectif Debout, eh bien, c'est pourquoi apprend-on aux filles à ne pas se faire violer plutôt que d'apprendre aux hommes à ne pas violer ? Et toujours, on est dans cette inversion de la culpabilité. La personne qui est violée porte la honte et réduit au silence. Et le viol a vraiment cette particularité d'être un crime dont la victime se sent coupable et le violeur innocent. Je vais préciser quand même qu'en moyenne dans le monde, près d'une femme sur cinq sera victime de viol ou de tentative de viol au cours de son existence. En France, on estime que 50 000 femmes sont violées tous les ans. Et donc, très certainement, vous connaissez, sans le savoir, autour de vous, une personne qui a été victime de viol.
50 000 femmes, c'est énorme, hein, c'est énorme. Alors, on garde aussi l'image du viol qui intervient dans un contexte de violence avec un homme qui arrive armé, qui attaque une femme et qui l'oblige à avoir des relations sexuelles. Est-ce que c'est toujours ça, le viol ?
Majoritairement, c'est le viol d'une femme par un homme, puisque 96% des auteurs de viol sont de sexe masculin. Et 91% des victimes sont de sexe féminin, mais donc pas que. Le viol, ça peut être aussi le viol d'un homme par un homme, le viol d'une femme par une femme. Et 49% des viols sont commis sans aucune violence physique. Alors d'après la législation française, un viol désigne toute pénétration sexuelle, qu'elle soit vaginale, anale ou orale, par le sexe, par la main ou par des objets, commis sur la personne d'autrui, sous la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Donc contrainte physique ou contrainte psychologique et toutes les formes que ça peut avoir. Et il y a aussi la qualification d'agression sexuelle pour ce qui ne rentre pas dans le cadre législatif du viol.
Voilà, donc c'est plus vaste que l'image qu'on en a, le viol, finalement. En termes de conséquences du viol, on se souvient de la phrase de Jack Land lors de l'affaire DSK qu'on évoquait tout à l'heure, qui disait « il n'y a pas mort d'homme ». Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les conséquences pour les femmes qui sont victimes de viol ?
Le viol, c'est une mise à mort psychologique. Et ça a un énorme poids social qui est méconnu. Les conséquences peuvent être nombreuses. Alors j'ai repris une liste qui a été faite par la permanence SOS Femmes Accueil, donc des principales conséquences des viols, mais donc cette liste n'est pas exhaustive. Alors il y a une énorme baisse de l'estime de soi, et on sait combien c'est important au quotidien l'estime de soi. Un sentiment de saleté et de honte qui est lié donc à cette inversion. Il y a des difficultés sexuelles, bien sûr, et des difficultés relationnelles, donc pour l'engagement amoureux, une agressivité, un isolement social. Il peut y avoir d'autres conséquences donc dans le cadre de violences conjugales aussi. Un dégoût ou une haine des hommes qui peut apparaître suite à un viol. On retrouve des difficultés somatiques et psychosomatiques, des difficultés autour de la maternité. Des conduites addictives et d'autodestruction telles que l'anorexie, la boulimie, l'automutilation, des tentatives ou idées suicidaires. On retrouve diverses pathologies psychiques comme des dépressions, des psychoses, un mal-être généralisé, un sentiment de culpabilité dévorant, un sentiment de vide et de non-sens, un dégoût de soi, un dégoût de son corps, de son image dans le miroir. On retrouve aussi des difficultés professionnelles et tout ce que ça implique, et des hospitalisations répétées, spécialement en psychiatrie. Donc, de très graves conséquences à vie.
Des conséquences très lourdes. Le viol est un crime. Justement, la question qu'on se pose, c'est quand même un crime qui est grave. C'est depuis quand ce crime est puni par la loi ?
Eh bien, depuis très peu de temps en France, et c'est seulement en 1980 que la loi condamne le viol, et c'est suite à un combat acharné du MLF, le mouvement de libération des femmes.
1980, c'était hier quand même. Et sur justement toujours le côté légal, est-ce que un viol qui a lieu au sein d'un couple marié, quand c'est l'homme qui viole sa femme, est-ce que ça aussi c'est un crime, et si oui, depuis quand ?
Alors, le devoir conjugal a été aboli en France en 1990 seulement. Et actuellement, dans le monde, certains États ne considèrent pas que le viol puisse exister entre époux. Dans la législation, le fait que ce soit le conjoint, donc conjoint au sens large, hein, en mariage ou concubinage, eh bien, c'est un facteur aggravant parmi d'autres. Donc, les qualités d'ascendant, de personne ayant autorité, ou de conjoints sont légalement des circonstances aggravantes et psychologiquement aussi.
Donc il a fallu attendre, hein, 1980 puis 1990 pour avoir vraiment des lois qui punissent le crime qui est le viol. Justement, par rapport à ça, est-ce que les femmes vont porter plainte systématiquement quand elles sont victimes de viol ?
Seul un viol sur 11 fait l'objet d'une plainte. Puisque les victimes gardent le silence la plupart du temps, elles redoutent les conséquences, la plupart ne porteront jamais plainte, et il faut savoir qu'il y a une prescription de 10 ans sur les viols, ce qui est vraiment très pénalisant. Le viol est vraiment très particulier, et il y a une vraie difficulté souvent à reconnaître ce qui s'est passé comme étant un viol, et bien surtout si c'est par une personne proche ou par un parent, par un conjoint. Il y a donc la difficulté rien que de mettre ce mot viol. Il y a notamment Virginie Despentes qui en parle dans son livre phare King Kong Theory. Les victimes hésitent vraiment à se lancer dans une procédure juridique, même quand elles ont pu reconnaître ce qui leur est arrivé.
Sachant qu'il y a ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la mise en doute de la parole, oh, elle exagère, etc. Donc c'est quand même une démarche difficile. mais il est important que les femmes puissent être soutenues dans cette démarche. Après, quand elles vont porter plainte comme ça, quelles sont les conséquences? Est-ce que les auteurs de viol vont en prison? Quel type de condamnation il y a derrière?
Le viol en France est passible de 20 à 30 ans de réclusion criminelle. Hormis quelques rares cas ultra médiatisés, bon, qui permettent de quelque part d'avoir une figure du violeur qui serait un psychopathe, qui est très lointaine de la réalité. On a vu que le viol est un problème de sexisme quotidien. En fait, les violeurs condamnés représentent 2% des auteurs de viol. Donc pour environ 200 viols par jour en France, 4 violeurs sont reconnus et condamnés par la justice. Dans la plupart des cas, la justice, entre guillemets, abandonne les poursuites et relaxe les responsables sans les inquiéter, et même lorsqu'il y a aveu.
Donc il y a quand même encore réellement des progrès à faire sur cette thématique. Par rapport à la thématique des violences faites aux femmes et aux viols, il y a peut-être quelques conseils de lecture et quelques sites internet que tu peux nous donner pour aller plus loin.
Oui, alors je vais vous conseiller de lire En finir avec les violences machistes. C'est une brochure que j'avais écrite il y a quelques années qui parle de toutes les violences faites aux femmes et notamment du viol. Donc qui donne des chiffres comme par exemple un chiffre de l'OMS. Les violences faites aux femmes sont la première cause de mortalité chez les femmes de 16 à 44 ans en Europe. Chiffre vraiment étonnant et pourtant réaliste. Les violences faites aux femmes semblent invisibles et c'est parce que la société ne les voit pas. L'idéologie dominante ne permet de voir ces violences que comme des phénomènes individuels isolés, et pourtant cette violence est structurelle. Et donc on a une version complète et une version urgente. Une autre brochure, donc une brochure collective qui est soutenir une survivante d'agression sexuelle, savoir comment réagir dans l'immédiat et par la suite. Et sur le thème des violences et sur le thème du plaisir, donc lié à la sexualité, je vous conseille la lecture des monologues du vagin. Donc, qui est un recueil de témoignages de femmes à travers le monde, très variés, très intéressants. Tous ces textes, vous pouvez les trouver sur notre site internet, donc www.collectif-debout.org. Et puis surtout, il y a une permanence téléphonique d'une association qui a un combat énorme, qu'elle est seule à mener, ou presque. C'est le collectif féministe contre le viol. Et donc, il y a une permanence téléphonique. Vous pouvez les appeler pour demander de l'aide, pour parler. C'est vraiment un des rares points d'écoute. Je vous donne le numéro 0800 05 95 95. Vous pouvez les appeler du lundi au vendredi de 10h à 19h.
Voilà, il y a aussi par rapport aux violences faites aux femmes, il y a un numéro d'écoute nationale Violence Femmes Info, c'est le 3919. Et puis sur la région de Nancy, il y a le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, le CIDFF. Vous retrouverez tous ces numéros et les liens sur les sites internet de ces associations. Sur notre site internet, on a fait un onglet « Vous êtes victime » où vous retrouvez comme ça les contacts en cas d'urgence, etc. Donc voilà. On voulait aussi vous parler dans le domaine des violences faites aux femmes, de la lesbophobie, qui est une violence particulière faite aux femmes. Seulement, finalement, il y avait déjà beaucoup de choses à aborder. On n'aura pas le temps aujourd'hui. On avait quand même prévu une petite programmation musicale avec une chanson d'amour. Voilà, c'est « Celle qui aime elle » de Marie-Paul Bell.
Elles se tiennent la main en secret sous leur veste. se caressent des yeux sans un geste. On lit sur la photo où elle sourit tranquille. Juin 1950 à Belle-Île. C'était pas facile dans ces années-là. Et en ville, on en parlait tout bas. Les mots de haine, ce qu'on entend à peine, les ont fait pleurer bien des fois. Suivre le modèle, impossible pour celle qui aimait. Et moi qui sais le prix de leurs amours rebelles, moi qui suis mi-voyou, mi-voyelle, si j'ai choisi d'aimer intrigue en glisocèle, je peux vivre au grand jour grâce à elle. C'était pas facile dans ces années-là, et en ville, on les montrait du doigt. Les mots qui glissent, les regards en coulisses, les ont fait douter d'elle quelquefois. Pour toucher le ciel, elles avaient besoin d'elle, besoin d'elle. Suivre le modèle, impossible pour celle qui aimait. Elles se tiennent la main en secret sous leur veste, se caressent des yeux sans un geste. On lit sur la photo où elle sourit tranquille. Juin 1950.
Donc, on parlera un petit peu plus des luttes des lesbiennes et de la lesbophobie lors d'une prochaine émission. Donc, on va terminer cette émission. Vous pouvez retrouver les brochures dont a parlé Maya au CCAN. C'est là que vous pouvez aussi contacter le collectif Debout, donc au CCAN, Centre culturel autogéré de Nancy. 69 rue Mont-Désert, 54 000 Nancy. Donc, vous pouvez nous écrire par rapport à cette émission, justement, donc à cette adresse. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'émission, donc par email, contact, donc en minuscule, @collectif-debout.org. Vous retrouverez aussi toutes les informations dont on vous a parlé sur notre site www.collectif-debout.org. Et donc, nos prochains rendez-vous, c'est donc cette émission au mois de décembre, le 13 décembre, de 15h à 16h, sur les jouets sexistes, entre autres. Le 13 novembre, vous aurez rendez-vous avec le collectif Debout au CCAN à 19h30 pour une soirée d'information et d'échange sur les violences faites aux femmes. Donc le 13 novembre, notre prochaine réunion aura lieu le 4 décembre à 19h30, toujours au CCAN. Et au mois de décembre, le 15 décembre, de 15h à 18h au CCAN, il y aura un atelier d'autodéfense pour les femmes. Donc il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine fois.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Au plaisir de vous retrouver prochainement.
Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves, déprisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous les femmes. Ensemble, révoltons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos enfants.
Debout. Debout.